Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Patrick Artus.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, conseiller économique de Natixis. Vous êtes le co-auteur d'un livre qui va paraître le 15 mai, on va en dire un mot dans un instant. Quelle France en 2050 face aux grands défis en Europe et dans le monde, chez Odile Jacob. Sylvain Rémy, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, les Técousmi, et avec nous Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et membre du comité éditorial de Pour l'Écho, avec à la une du numéro d'avril, qui aime l'Europe, point d'interrogation. Vous aimez l'Europe, Jean-Marc ?
Oui, moi profondément.
Profondément.
Profondément. Je suis même un lecteur régulier des mémoires de Jean Monnet. J'en suis à ma troisième relecture, à ma deuxième relecture, ma troisième lecture des mémoires de Jean Monnet. C'est un texte que je trouve très, très intéressant. D'ailleurs, c'est assez curieux, mais je ne veux pas faire toute l'émission là-dessus, mais dans la dernière émission de Jérôme Garcin au Masque et la Plume, dans les livres recommandés par des critiques, il y avait les mémoires de Jean Monnet, alors que c'est plutôt des livres, des romans qui examinent le Masque et la Plume, en disant non pas que c'était un roman, mais que c'était un texte assez fondateur. Et donc, je suis pour l'Europe, pour Jean Monnet, pour...
J'ai bien aimé là,
le libre-échange pour tout ça.
Ça, le libre-échange, je savais.
Mais l'Europe, normalement, est l'Europe autrefois est de Jean Monnet. Je rappelle, juste pour finir sur Jean Monnet, là, quand il arrive dans son bureau, la première chose qu'on lui présente, c'est son bureau. Il est dans le bureau de l'ancien ministre de l'Agriculture. Et il y a Jules Méline, qui a été un grand ministre de l'Agriculture, puisqu'il a rétabli des droits de douane. Et il a dit, écoutez, sortez-moi ça tout de suite, parce que je suis à l'opposé de Jules Méline. Et l'huissier lui dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Vous êtes être obligé de le garder. Et donc, je pense que des problèmes de l'Europe, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il faut garder Jules Méline.
Il y a une phrase que j'ai trouvée dans les appels de une, même les europhobes se sont habitués à l'Europe.
Ah ben,
et c'est vrai qu'aujourd'hui, les partis très eurosceptiques, voire les frexiteurs, ont changé d'opinion.
Je pense qu'il y a la campagne présidentielle de 2017, il y avait des gens qui faisaient campagne pour la sortie de l'euro.
Bien sûr. C'est
je
fini.
Pense que c'est fini. Plus personne maintenant sur c'était Marine Le Pen, donc elle était dans les candidats de référence susceptibles d'être élus. Et donc je pense que là, aucun candidat de référence susceptible d'être élu maintenant est sur cette ligne-là.
Non, plus aucun. D'ailleurs, alors le seul, mais il n'est pas de référence. C'est Florent Philippot qui lui. Mais effectivement, il n'y a plus aucun candidat de référence qui prône le Frexit. Quelle France en 2050 point d'interrogation, signé Patrick Artus, Marie-Paul Virard. Vous arrivez à y voir si loin, vous, Patrick?
On a renoncé à 2100. Alors même qu'on
avait hésité.
Alors même qu'on a des prévisions.
C'est pourtant plus sûr parce qu'on ne pourra pas vérifier. En 2100, hein.
On a des prévisions démographiques de l'ONU en 2100, d'ailleurs qui sont assez extraordinaires. Et vous savez que d'après l'ONU, il y aurait plus que 600 millions de Chinois en 2100, hein, contre 1,4 milliard aujourd'hui. Et on part dans ce livre, on part justement de la démographie.
L'élément le plus prévisible.
Et on parle de la productivité. Et alors, on s'inquiète pour l'Europe ou pour la France, puisque et la démographie et la productivité jouent contre nous. Donc, si on fait une prévision un peu tendancielle, le poids de l'Europe dans l'économie mondiale et le poids de la France dans l'économie mondiale diminue très 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 rapidement, même jusqu'en 2050. Hein. Zéro gain de productivité et une démographie défavorable.
Donc ça veut dire que vous partez du principe que le déclin de la productivité est structurel.
Je pense que
le gouvernement fait le pari inverse.
Hein. C'est un point important dont on a déjà parlé sur ce plateau. Et je pense qu'il y a des problèmes structurels d'insuffisance d'investissement technologique, d'insuffisance de recherche-développement, d'insuffisance d'innovation, de rupture, comme dit Philippe Aguillon ce matin dans les échos. Et puis le vieillissement. Hein, le vieillissement est mécaniquement associé à des gains de productivité plus faibles. Et puis, on dit spontanément, l'Europe va devenir négligeable dans l'économie mondiale.
Ça résonne avec la une de Pour l'Écho.
La grande puissance de 2100, France de 2050, c'est les États-Unis. Encore plus qu'aujourd'hui, les États-Unis écrasent l'économie mondiale. L'Inde ou l'Afrique croisent vite, mais sont trop petites initialement. Vous savez que l'Inde, par exemple, a un revenu par habitant qui est 16 fois plus faible que le revenu par habitant des États-Unis. Donc il faut beaucoup plus de temps pour que l'Inde. Et puis on part sur quels sont les remèdes pour l'Europe. Il y a des exemples étrangers à regarder. Le Japon et la Corée ont une situation démographique bien pire, mais ont fait un effort de robotisation absolument incroyable.
Et on en parlait hier, Patrick. Un Sud-Coréen et un Japonais, c'est pas quelqu'un comme un autre. Un Japonais est capable de vivre une carrière entière sans exiger de hausse de salaire, et un Sud-Coréen est capable d'accepter, en tant que cadre dirigeant, de travailler un jour de plus par semaine, soit 6 jours sur 7, sans rien dire.
Oui, mais ils ont aussi fait cet effort d'incroyable robotisation. Clairement, et d'ailleurs, dans la vie privée et dans la vie d'entreprise. Donc c'est un choix que doit faire l'Europe, parce que de toute façon je ne crois pas qu'on redressera la démographie. Vous savez que le taux de fécondité en Italie est
assez dramatique,
juste au-dessus de 1. Enfin bon, et voilà. Et donc on essaie de dessiner des pistes pour que l'Europe ne disparaisse pas comme puissance économique en 2050.
Il y a eu la publication tout récemment d'un rapport signé Jean Tirole, assez terrifiant, sur la stagnation voire le déclin de l'Europe. Oui, considère que c'est le continent des mid-tech et pas plus que ça.
Oui, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Si vous regardez les 10 plus grandes entreprises européennes et américaines, il y a 8 entreprises sur 10 en Europe qui existaient depuis des dizaines d'années, et il y a 8 entreprises sur 10 aux États-Unis qui sont nouvelles, quoi. C'est lié aussi à la protection de l'emploi. La protection de l'emploi fige la structure de l'emploi en Europe.
Et c'est la question qu'on a posée à plusieurs reprises: pourquoi c'est toujours l'Amérique qui gagne à la fin? Et puis c'est toujours l'Amérique qui gagne.
Oui, mais enfin, l'Amérique aussi fait pratiquement 2 fois plus de dépenses de recherche-développement que l'Europe. Donc c'est pas étonnant que l'Amérique gagne. Et il y a vraiment une corrélation forte entre le niveau de la recherche-développement et les gains de productivité.
Oui, moi je ne suis pas aussi négatif sur l'Europe. On a parlé du Japon.
Jean-Marc, je me tournais à peine vers...
Oui, non mais écoutez, on a parlé du Japon. Le Japon, c'est la robotisation, mais c'est aussi une épargne qui a été projetée à l'extérieur, qui fait que le Japon détient la planète. C'est-à-dire que le Japon vit des revenus de ses placements à l'étranger. Je rappelle quand même que sur le commerce extérieur, nous exportons, l'Union Européenne exporte pour un peu plus de 500 milliards d'euros aux États-Unis et importe 360 milliards d'euros aux États-Unis. Et quand vous regardez l'évolution de la balance des paiements courants, non pas le solde commercial, mais quand vous regardez la balance des paiements courants, alors que pendant très longtemps, les États-Unis détenaient l'Europe. C'était le défi américain de Jean-Jacques Serban-Chabert. Pour ma génération, c'était les entreprises américaines sont en train de nous acheter et tout ça. Et maintenant, vous apercevez que, quand vous regardez la balance des paiements courants, maintenant, l'Europe est en train de grignoter sur les placements. Et donc, maintenant, le déficit lié au placement n'est plus que de 50 milliards de l'Europe, et il est en train de s'amenuiser, notamment depuis l'IRA.
D'accord. Seul point qui nous rassure sur l'Europe. Tous les autres points, malheureusement, ne sont pas
là. Ça veut dire que l'Europe a une stratégie d'épargne qui est conforme à son vieillissement. Vieillir, c'est avoir des robots, puis c'est aussi avoir dégagé de l'épargne, placer cette épargne dans des endroits où elle sera productive. Et je le disais dans le couloir, mais moi, ce qui m'a frappé dans les formules que reprend Trump, qui est une formule de Peter Navarro, qui est son conseiller économique, qui est un personnage un peu sulfureux, il disait: avec l'IRA, qu'est-ce qu'on fait? On fait payer par le contribuable américain, on donne par le biais du contribuable américain de l'argent à des entreprises européennes pour qu'ils emploient des travailleurs mexicains. Et donc c'est un peu ça aussi les États-Unis. C'est un pays qui s'est vendu beaucoup, qui est de plus en plus détenu, qui appartient de plus en plus aux Allemands, aux Japonais, en partie aux Chinois, en partie aux Singapouriens. Donc je crois qu'il faut réfléchir aussi cette démographie en termes d'épargne et de capacité à avoir répondu à son problème démographique avenir, par l'épargne.
Notre avenir est de devenir des rentiers du monde.
Je suis totalement en opposition avec Jean-Marc là. Je pense que les États-Unis ont raison d'attirer l'épargne du reste du monde pour faire... Et c'est pas pour financer des déficits publics idiots, c'est pour financer l'IRA, le CHIPS Act, et donc c'est pour financer la modernisation de l'économie américaine. Et donc les déficits extérieurs américains enrichissent à terme les États-Unis.
Mais parce qu'ils ont des hommes à mettre dans les usines. Nous, on n'aura que des vieux. Une maison de retraite, elle ne peut pas faire de croissance. Une maison de retraite, elle a besoin d'avoir des revenus. Mais il y a un moment où elle n'a pas besoin de capital parce qu'elle n'a pas les moyens de faire fructifier ce capital.
On l'a eu tellement souvent ce débat. Et alors, effectivement, vous défendez cette idée. Vous êtes très souvent en opposition avec la plupart des personnes qui passent ici.
Oui, je sais bien.
Moi, c'est vrai que ça me fait pas rêver d'être une espèce de rentier
mais je crois que bien,
dans mon EHPAD.
On va laisser la parole au chef d'entreprise. Mais c'est pas de rêver ou pas rêver, c'est de constater. Patrick l'a dit. Regardez l'Italie. Regardez. Est-ce que quand vous promenez dans une ville en Italie, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai été frappé. Vous ne croisez plus aucune femme enceinte.
Je sais, il y a une Italienne sur deux en âge d'avoir des enfants qui n'en a pas.
Donc, il n'y a plus d'hommes. Donc ça sert à rien.
Ça vous inspire quelque chose, Sylvain, cette idée que, tant pis, c'est fini, on est vieux, on a perdu des gains de productivité, tout le monde nous passe devant, donc plaçons notre épargne, et puis voilà, vivons de nos dividendes futurs.
Mais je vais vous dire qu'on
super BASF s'en va pour les États-Unis.
On n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'on est vieux, on vieillit, et ça ne va pas s'inverser dans les 50 années. Donc, il va falloir faire avec. Effectivement, profiter de la jeunesse des autres et de leur dynamisme, pourquoi pas ? Parce que c'est ce qui nous reste avec notre argent aujourd'hui. Il vaut mieux aller investir chez les gens qui se bougent un peu et qui arrivent à nous rapporter un minimum de revenus plutôt que de l'investir chez nous où effectivement plus il y a plus de vieux, les normes nous assaillent,
tout ça va se changer, tout va changer.
Comment?
Les normes, ça va.
Oui, les normes, ça va changer. J'allais vous l'annoncer à l'instant, parce que vous savez que je suis un spécialiste européen des normes aujourd'hui. J'allais dire français, mais je me sous-estime.
Je suis un peu de l'avis de Patrick. Je pense que le trou financier américain d'aujourd'hui, c'est peut-être la prospérité de demain. Quand j'entends,
c'est nous les bénéficiaires de cette prospérité, parce que la prospérité américaine, encore une fois, vous regardez la balance des paiements courants américains. Ce que je trouve de frappant, c'est que la part de la rémunération des gens qui ont placé de l'argent aux États-Unis n'arrête pas d'augmenter. Et dans le déficit de la balance des paiements américains, qui est de 1 000 milliards de dollars, vous apercevez qu'il y a de plus en plus le poste de rémunération des investissements étrangers est en train de s'alourdir de façon spectaculaire.
Oui, mais à un certain stade, on n'aura même plus besoin de rapatrier les bénéfices faits aux États-Unis. Dans la logique que tu développes, à un certain moment, on va simplement réinvestir aux États-Unis. Donc, je crois que c'est une logique absolument destructrice pour l'Europe. Il faut qu'on fasse tous les investissements de productivité nécessaires. Et par exemple, les Coréens investissent 3 fois plus en robots que les Européens. Donc, il y a une marge incroyable d'investissement de modernisation en Europe.
Mais je ne fais pas contre ça, mais je pense quand même que la tendance lourde de la démographie est telle que notre véritable enjeu, c'est d'avoir de l'argent dans les pays jeunes, les États-Unis, mais aussi, on a parlé de l'Inde, j'arrête pas de dire, notre avenir, il va se jouer à Mumbai et à Abidjan.
Je connais votre point de vue.
Plus à Mumbai qu'à Abidjan.
La productivité est en baisse, m'écrit Louis, tout simplement parce que nous ne travaillons pas assez. Et puis il y a John qui met c'est pas celui-là que je voulais dire, je sais plus qui est l'autre. Si je comprends bien, il faudrait que je déménage aux États-Unis pour échapper aux prévisions de 2050 pour la France. Il n'y a plus d'espoir pour l'interrogation quand même.
Mais non, il faut pas lui dire de déménager. D'acheter quelque chose en Californie.
Moi, objectivement,
tout en continuant à vivre en France.
Je n'achète pas totalement votre raisonnement, Jean-Marc. On a eu ce débat tellement souvent. Je me tourne vers l'actualité économique du jour va commencer 20 minutes après le début de l'émission. Vous aviez travaillé lors de la loi Pacte, Sylvain Eurébis, sur justement le poste simplification. J'ai régulièrement ici Guillaume Poitrinal qui vous a précédé avec Thierry Mandon. Chaque fois, c'est grands espoirs et déceptions. Est-ce que là, vous vous dites, Bruno Le Maire n'a pas fait comme d'habitude, puisqu'il a quand même sondé les entrepreneurs avant de prendre des décisions. Il y a eu tout un débat public qui a été organisé. La complexité, on n'en a jamais autant parlé que depuis un an. Jamais. Ça a été le cœur de l'histoire des agriculteurs. Voilà. Et là, vous avez... alors évidemment, c'est un catalogue à la Prévert, les 50 mesures, il y a tout. Mais est-ce que vous vous dites, là, il y a peut-être une marche en avant, une sérieuse, j'y crois. Que je peux vous faire la liste des lois et la liste des...
Non, le problème, qu'on simplifie la paperasse, c'est très bien. On le fait d'ailleurs depuis quelques années. On avait commencé à simplifier à l'époque. Le problème, malheureusement, n'est pas là. Quand je regarde les 50 mesures annoncées par Bruno Le Maire, sont des mesures, enfin, je veux dire, supprimer des lignes sur la feuille de paye, je ne pense pas que ça libère l'économie française.
Vous prenez un peu supprimer, la plus...
oui, mais on parle que de celle-là.
Oui, enfin, c'est l'affichage.
Il était sur France 2 hier soir au journal, il a parlé de ça en premier. Anne-Sophie Lapix l'a interrogé sur le changement du nombre de lignes de la feuille de paye.
Oui, c'est le truc visible. Mais le dites-le-nous une fois, le
non,
test
mais le dites-le-nous une fois, on l'a eu déjà en 2017. Je pensais que c'était déjà là. J'étais surpris de voir qu'il n'y était pas encore. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on a trop de normes.
Là.
On a, alors si mes chiffres sont bons, on a 400 000 normes en France contre 80 000 en Allemagne. On a, à l'époque, j'avais le chiffre de 60 milliards d'euros par an de coûts administratifs pour les entreprises. Bruno Le Maire a dit hier soir 84 milliards.
J'ai pensé à votre chiffre.
84 milliards, voilà.
Et il l'a effectivement actualisé.
Et donc, à l'époque, en 2017, c'était 60 milliards. C'est-à-dire qu'on a ajouté 24 milliards de coûts pour les entreprises. C'est du coût pour les entreprises annuel de cette complexité administrative. Donc, on n'a pas du tout avancé. Il faut supprimer des normes. On a 400 000 normes en France contre 80 000 en Allemagne. Il faut les supprimer. Et à l'époque, Édouard Philippe avait instauré une règle qui était chaque nouvelle norme doit donner lieu à la suppression de deux anciennes normes.
Oh, je l'ai entendu mille fois, celle-là.
Mais, eh bien, et c'est pourtant dans la loi.
Oui.
Les projets de loi à l'Assemblée doivent comporter une partie simplification, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est au niveau des normes...
Bruno Le Maire. Loi annuelle de simplification.
Oui, mais on l'a dit déjà en 2017. Le problème, Thierry Mandon et Poitrinal avaient dû l'annoncer précédemment. Le problème, c'est les normes. Et le problème, il est encore plus compliqué à résoudre parce que ce ne sont pas que les normes françaises, ce sont les normes européennes. Et là, l'Europe nous impose un nombre de normes que vous n'imaginez pas, une complexité que vous n'imaginez pas. Très souvent... Les règles viennent de Bruxelles et là c'est beaucoup plus compliqué de lutter contre cela, et les Français ne se rendent pas compte que quand ils votent aux élections européennes, ils votent pour des gens. Alors là aujourd'hui, hier c'était les écologistes, aujourd'hui c'est le Rassemblement National, pour des gens qui sont contre le libéralisme et qui imposent des normes, contrairement à ce qu'ils disent, ils imposent des normes. Les écologistes, ils nous ont ajouté des dizaines et des centaines et des milliers de normes chaque fois qu'ils sont à Bruxelles. C'est là-bas que ça se joue et c'est pas tant ici chez nous. Donc clairement, il y a un certain nombre de choses à faire qui est dans la réduction des normes, qui est aussi dans le changement des seuils pour les entreprises, les 10, les 50, les 250. Je lutte encore.
Ça a été considéré comme trop compliqué cette fois-ci.
Je lutte, mais
simplifié.
C'est pas trop compliqué. C'est trop touchy, comme on dit touchy. En anglais, de modifier ça. Mais être aujourd'hui considéré, ne plus être considéré comme une PME quand vous avez 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est grotesque. C'est le même chiffre, d'ailleurs, qu'il y a 20 ans. Comme s'il n'y avait pas eu d'inflation, comme si le monde n'avait pas bougé.
Quand on passe de PME à ETI.
Et oui, et quand vous passez de PME à ETI, dans le monde entier, on vous félicite. Vous avez grossi, on vous dit, bravo mon gars, on va t'aider. Non! En France, on vous dit, tiens, on va te taxer, tu n'auras plus droit à ci, tu n'auras plus droit à ça, tu as des normes supplémentaires. Parce que les PME, elles ont des normes plus légères que les ETI.
Même l'IS est plus bas.
Voilà. Tout est plus compliqué quand vous grandissez en France et en Europe. Et donc, je dis, c'est là qu'il faut faire porter l'effort, plus que sur le nombre de CERFA, la réduction de nombre de lignes du bulletin de paye. Ce qui est très bien en soi, mais c'est pas du tout suffisant et c'est pas à la hauteur des économies qu'on veut réaliser.
On marque une pause. Dans un instant, Patrick Artus et Jean-Marc Daniel, vous me donnerez votre avis sur... Alors, il n'utilise plus le mot de choc de simplification, Bruno Le Maire, parce que ça, c'est bon, les chocs, là, les chocs qui conduisent à des pichenettes. Après, on peut dire un mot d'Albert, si vous voulez, c'est l'intelligence artificielle de Matignon. A tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.